France Culture.
Et les midis reprennent la route. À 13h, je recevrai la cinéaste Lucie Ladzia-Lilovic. Mais d'abord, c'est le Point Culture, c'est Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Les FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain, saturent. D'après un article paru dans le Journal des Arts, on apprend que les réserves débordent et que la question de l'acquisition et de la conservation des œuvres deviennent cruciales. Dans ces conditions, comment poursuivre les différentes missions des FRAC? Est-ce que cette donnée va changer la typologie des œuvres choisies? Et quelles nouvelles solutions trouvent les FRAC pour montrer les œuvres en dehors de leurs murs? C'est le dossier du Point Culture du jour. Fabien Danesi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du FRAC Corse et président du réseau des fonds régionaux d'art contemporain, les FRAC. Alors, le Journal des Arts affirme que les réserves des FRAC sont pleines. Pour bien comprendre les enjeux de cette histoire, est-ce que vous pourriez nous rappeler d'abord les missions d'un FRAC ?
Alors oui, tout à fait. Je rappelle que les FRAC ont été créés dans les années 1980 à la suite d'une grande politique de décentralisation visant à une accessibilité notamment de la culture dans les régions. Et les FRAC donc ont pour principale mission de constituer une collection d'art contemporain dans la perspective de soutenir la création actuelle. Et puis, l'un des enjeux fondamentaux des FRAC, c'est aussi d'accompagner les œuvres à travers des actions de médiation. On est vraiment dans une logique de sensibilisation à la création. Les FRAC, en fait, sont des outils de démocratisation culturelle en région.
Alors, il y a 23 FRAC, dont un en Outre-mer, il est à La Réunion. Vous venez de le dire, une des missions principales du FRAC, c'est d'acheter de l'art contemporain. Or, on nous annonce que les réserves de certains FRAC sont pleines. Est-ce que cette nouvelle-là va remettre en cause le système d'acquisition de l'art contemporain en France, selon vous ?
Alors disons que de toute façon ce système d'acquisition il est constamment en évolution. Alors c'est vrai qu'on peut se focaliser sur la question des réserves, mais permettez-moi aussi de souligner que déjà les FRAC vivent à travers un grand nombre d'expositions. Je vous donne quelques chiffres comme ça. Les FRAC ont organisé en 2023 531 expositions et il y a 14% de leurs collections qui sont en circulation, ce qui correspond à peu près à 6600 œuvres sur les 53 000 qui constituent les collections des FRAC. Alors tous ces chiffres, c'est pour dire finalement que certes, il y a des problèmes de réserve, il y a des problèmes de stockage, mais les FRAC, ce sont quand même des structures qui inventent en permanence des nouveaux moyens de diffusion de leurs collections sur les territoires. Il y a également un dispositif que j'ai pas encore évoqué et qui est fondamental, c'est la question des dépôts. C'est-à-dire que face à l'engorgement des réserves, eh bien, il est possible notamment de mettre en place des politiques de dépôt de long terme dans différentes structures. Sur la question autrement des bâtiments, alors c'est vrai que la question des réserves a amené parfois certains décideurs politiques à envisager de nouveaux bâtiments. Ben, c'est par exemple le cas du FRAC Corse.
Oui, vous avez une nouvelle réserve, vous.
Oui, voilà, qui s'est doté d'une vraie réserve de 1000 mètres carrés et qui, pour l'instant, nous permet de voir l'avenir avec sérénité. C'est le cas aussi du FRAC Île-de-France, dont les réserves sont installées à Romainville. Réserves qui sont aussi des lieux d'exposition et qui permettent au public d'être peut-être au plus près de nos métiers, de mieux comprendre le mode de fonctionnement de nos institutions. Parce que c'est vrai que les FRAC, ont un statut particulier. On est entre le musée et le centre d'art, en quelque sorte. Certes, la question de l'engorgement des réserves est une réalité, on ne peut pas l'écarter, mais je pense que cela oblige aussi les directions des FRAC à faire preuve d'inventivité et à chercher effectivement à consolider leur outil dans une logique de partage, de diffusion et d'accompagnement, parce que c'est quand même la raison d'être des FRAC, d'accompagnement des artistes. Je finirai peut-être sur ce point. On achète beaucoup d'œuvres de la nouvelle génération, hein, d'artistes qui entrent sur le marché, je dirais, qui sortent des écoles.
Oui, c'est un des objectifs des FRAC.
Ben, bien sûr, de soutenir la jeune création, de soutenir l'émergence. Et je pense que voilà, c'est cet outil-là, eh bien, il a un rôle encore fondamental. Et pour cela, ben, il s'agit justement de multiplier les actions.
Bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Fabien Danesi.
Merci à vous, bonne journée.
L'encombrement des réserves, c'est désormais un constat. On se doute qu'il n'y a pas de budget suffisant pour les agrandir partout. Alors concrètement, comment ces institutions réagissent-elles?
Alors il y a des solutions, hein, Marie Lefrac y travaille déjà. Et je vous propose d'écouter la directrice des abattoirs à Toulouse qui nous explique les possibles voies de désengorgement. Lauriane Gricourt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des abattoirs, le FRAC Occitanie Toulouse. Est-ce que vous souffrez, vous aussi, d'un encombrement de vos espaces?
Alors oui, comme d'autres institutions, les abattoirs font face à une situation de quasi-saturation de leurs réserves.
Et à quoi c'est dû? Parce qu'on l'a compris, hein, les FRAC ont comme mission une politique d'acquisition des œuvres, c'est-à-dire que chaque année, vous devez acheter un certain nombre d'œuvres. Donc j'imagine que les réserves sont un endroit très important, un endroit névralgique d'un FRAC. Donc comment vous expliquez qu'on arrive déjà à saturation?
Alors effectivement, les réserves sont le cœur des institutions, puisque une de nos missions premières, c'est de conserver et de diffuser ces collections. Les réserves, ce qu'il y a, c'est que au départ, en tout cas, ça dépend, on parle de FRAC de première ou de deuxième génération, mais les réserves, au départ, n'ont pas été pensées suffisamment grandes pour accueillir un enrichissement conséquent des collections. Et c'est vrai que chaque 10 ans, à peu près, c'est à peu près la période, on se retrouve confronté à ces questions d'encombrement, de saturation des réserves, et on doit toujours trouver des solutions pour optimiser les rangements, louer des réserves en extérieur. Et comme effectivement, comme vous le disiez, chaque année, les FRAC continuent d'acquérir des œuvres qui sont de dimensions, de médiums, de formats différents, à un moment donné, on se retrouve confronté à des problématiques de stockage.
Mais alors justement, est-ce que cette saturation des réserves va modifier vos choix d'acquisition? Est-ce que, très concrètement, vous allez devoir acheter des œuvres plus petites ou qui encombrent moins l'espace?
Alors, on essaye en premier lieu de trouver d'autres solutions qui n'impactent pas nos politiques d'acquisition, parce qu'impacter nos politiques d'acquisition, c'est du coup aussi impacter le soutien à la création. Parce qu'effectivement, il y a des FRAC qui ont fait ce choix d'acquérir, par exemple, uniquement des œuvres à protocole ou des œuvres donc dématérialisées. Donc, on essaye d'optimiser nos rangements par de nouveaux mobiliers ou de nouveaux agencements d'espace, notamment grâce à l'aide de programmistes. Mais effectivement, aussi là aux abattoirs, on est confronté à devoir repenser notre politique d'acquisition. Et on met en place ce qu'on appelle un protocole de conservation prédictive, c'est-à-dire que au-delà de la pertinence de l'œuvre par rapport à notre politique d'acquisition et de la qualité de l'œuvre, on va prendre en compte d'autres critères qui sont ceux justement des problématiques de stockage ou de conservation des matériaux, dimension des œuvres. Donc les œuvres monumentales, par exemple, sont devenues pour nous on va dire hors critère, puisqu'on n'a plus la place d'accueillir des œuvres monumentales, sauf si derrière on a un projet dépôt en partenariat avec une autre institution.
Alors justement, j'allais y venir sur les dépôts. Est-ce que une solution simple ne serait pas de montrer justement ces œuvres pour ne plus les stocker en réserve?
Alors ça, c'est l'idéal. Donc on essaye de le faire notamment dans nos parcours qui peuvent être permanents ou semi-permanents dans nos propres institutions. On a aussi une grande partie de nos collections qui sont en diffusion, en prêt, en partenariat avec d'autres structures. Mais on essaye aussi de mettre en place des dépôts à long terme avec notamment des musées. Depuis 2023, on a un partenariat avec le musée Goya de Castres qui nous a pris en dépôt, enfin, lui a prêté des œuvres qui complètent son parcours permanent. Donc ça a ce double avantage qui est, nous, on va dire, de vider nos réserves, entre guillemets, de diffuser nos collections et aussi de pouvoir compléter des parcours et des permanents d'autres institutions qui n'ont pas dans leur collection ces typologies d'œuvres, donc notamment des œuvres d'art contemporain. Mais l'idée n'est pas de vider nos réserves pour aller remplir celles des autres. Donc voilà, on essaie de trouver ce type de solution, mais c'est pas toujours évident, mais c'est l'idéal.
Eh bien, merci beaucoup, Lauriane Gricourt.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci Marie, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, enfin bon week-end hein, déjà.
Bah bon week-end et puis à lundi.
À lundi, il est 13h et vous êtes sur France Culture.